écoutez Reliure, l'émission littéraire de Radio Galaxie. Bonjour et bienvenue dans Reliure. Nous recevons aujourd'hui pour la première fois Nicole Chappe. C'est une auteure ariégeoise. Bonjour Nicole.
Bonjour.
C'est la toute première fois que l'on vous reçoit. Ça fait déjà un moment que vous écrivez.
Oui, ça fait, disons, une vingtaine d'années.
Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ?
Disons, très jeune, j'écrivais des petites poésies. J'écrivais tous les jours, je faisais mon journal, un petit journal intime. Mm-hmm. Et par la suite, j'ai eu envie d'écrire des histoires pour être lues, pour partager.
Oui. Voilà. Alors, vous écrivez pour tous, du plus petit jusqu'aux adultes. Est-ce que vous avez une préférence ?
Eh bien non, j'aime les deux, j'aime autant les deux. Et bon, quelquefois on me dit qu'il vaudrait mieux que j'essaie de me concentrer sur l'un ou sur l'autre, mais j'ai besoin des deux. Donc je continue, j'ai eu autant de plaisir à écrire pour les adultes que pour les enfants.
Oui, mais je pense que les deux doivent être écrits et doivent être lus parce que vous faites vraiment bien, que ce soit pour les petits, que ce soit pour les ados ou que ce soit aussi pour les adultes.
Eh bien, je vous remercie.
Tout est subtil chez vous. Est-ce que c'est un point fort pour votre écriture ?
Je l'espère en tout cas. J'espère être un petit peu en nuance, essayer de faire découvrir ce que j'ai voulu dire. Voilà, oui. Et de pouvoir faire ressentir les choses aux autres.
Mmh. Vous avez beaucoup d'humour, en tout cas, dans l'écriture. Est-ce que c'est pareil dans la vie ?
Ça dépend avec quelle personne. Bon, c'est très différent. Bon, sur le plan professionnel, non, on ne peut pas trop en avoir tous les jours. Enfin, ça m'arrive quelquefois, l'humour ressort. Oui. Mais bon, on est obligé d'être plus sérieux avec certaines personnes.
Oui, mais ça, c'est tout à fait normal.
Oui, non, mais il y a des personnes qui ont beaucoup d'humour dans leur travail aussi.
Oui.
Voilà, enfin bon, j'essaie de... Enfin, l'humour, je le réserve peut-être un peu plus à ma vie privée.
D'accord. Donc. Quelque chose qui m'a fait sourire... Des piles à toire, épaules qui construit des murs. Est-ce que c'est l'enfant qui parle ou est-ce que c'est aujourd'hui votre regard sur l'enfance ?
Eh bien, il y a un peu des deux. Parce que c'est vrai que quand ma sœur m'avait, parce que c'est vraiment la vérité, hein, mm-hmm. elle m'avait demandé d'aller chercher cette crème à épiler. Et j'avais cru, moi, qu'elle me demandait des piles comme on mettait dans les lampes. Mm-hmm. Voilà, et c'est vrai que j'ai un petit sourire... beaucoup d'années après, et c'est aussi un regard d'adulte sur la façon dont les enfants comprennent les choses.
Oui.
Et que c'est comme une de mes sœurs qui sortait un petit peu quelquefois sans le dire à mes parents, elle faisait le mur, c'était une expression qu'on employait à l'époque.
Oui.
Et moi je voyais vraiment ma sœur, qui a 6 ans de plus que moi, du moins celle-ci, construire des murs. Et je ne comprenais pas pourquoi elle bâtissait des murs au collège, enfin c'était difficile pour moi.
Oui. Ben oui, quand on est enfant, c'est vrai qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Est-ce que vous avez gardé cette âme d'enfant au fond de vous ?
Et je crois bien que oui, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop.
Pourquoi ?
Eh bien parce que, bon, quand on est adulte, il y a des choses que l'on doit voir peut-être un peu plus, avec un peu plus de réalisme, disons. Alors je vois les choses, mais je suis quelquefois très, très enfant encore. Oui.
Oui, mais c'est bien aussi finalement, ça. Peut-être que ça vous aide.
Ça m'aide beaucoup, moi, mais ça peut déplaire à certains. Mais bon, c'est
chacun a sa personnalité.
Eh oui.
Vous parlez des relations qui se passaient avec le voisinage dans votre village. Est-ce que ça, c'était important pour vous quand vous étiez enfant ?
Très important, mais je n'en avais pas tellement conscience. C'était naturel, C'était le village était ma famille, avec des gens qui, bon, on ne s'entendait pas forcément avec tout le monde.
Oui.
Mais c'était la famille, les gentils, les moins gentils, voilà. C'était une famille au sens très large, puisque le village devait compter dans les 150-200 personnes à l'époque. Mm-hmm. Mais bon, pour moi, c'était naturel. Et c'est maintenant que je regrette beaucoup que ça n'existe plus, parce que ça n'existe plus maintenant. Du moins dans mon village, dans mon ancien village.
Oui. La découverte du mystère de Noël. Un enfant qui trouve normal de cacher des choses, puisque vous, déjà, vous cachiez des petites choses. Vous trouviez d'ailleurs que ce n'était pas un mensonge de cacher des choses. Mais là, vous avez été fâché. Est-ce que c'était pas plutôt cette magie que vous avez regrettée sur l'instant ?
Oui, bien sûr, le Père Noël, bon, pour moi, il existait, je le voyais, il était, enfin, il faisait partie de ma vie, du moins pendant l'hiver,
oui,
en attendant la période, et c'était comme un conte de fées, mais j'y croyais vraiment, et j'ai vraiment été déçue quand j'ai su qu'il n'existait pas, même si, bon, c'est vrai qu'au fond de moi, plus je grandissais, plus ça me semblait un petit peu bizarre, mais j'en ai voulu quand même un petit peu, à toute ma famille, de m'avoir menti.
Oui, oui, parce que pour vous, ça c'était le mensonge, mais quand vous cachiez quelque chose à vos parents, à votre famille, là vous ne voyez pas le mensonge.
Et non, parce que moi c'était pour ne pas leur faire de peine, je le traduisais comme ça.
Oui.
Et alors que eux, c'était les adultes, c'était la vérité, c'était ce qu'il y avait de parfait pratiquement, enfin dans mon esprit, donc ils ne devaient pas nous mentir.
Alors dans le livre que nous allons ouvrir d'ici quelques secondes, vous avez mis des recettes de votre famille, de votre village. C'est votre bonheur que vous partagez ?
Oui, oui, et c'est surtout pour qu'elles ne se perdent pas. Et je pense que les recettes, enfin la cuisine fait partie de la vie de tous les jours. C'est aussi important que le reste. On mange deux fois par jour, enfin des repas, disons, en dehors du petit déjeuner.
Oui.
Et ces recettes-là, je les ai mangées, je les fais encore. Je pense que c'est très important de les dire, de les faire partager aux gens qui ne les connaissent pas.
Quand vous les faites, c'est un petit peu de votre enfance qui est là ?
Oui, sûrement, oui.
Alors la famille a joué un grand rôle pour Marianne. Est-ce que c'est aussi une première société dans la vie d'un enfant ?
Oui, c'est la première société, surtout à cette époque-là, dans les années 60, dans un village, dans un tout petit village au fin fond du Limousin. À la maison, on n'avait pas la télévision au départ, donc c'était ma société, je ne connaissais rien d'autre.
Mmh. Oui.
Oui.
Enfin, le passage en sixième, l'effervescence, la pension, une liberté imaginée, les nouvelles COPS, l'installation, et ensuite là, chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, c'est la solitude. Est-ce que alors on prend conscience que c'est aussi le passage dans une autre vie ?
Ah oui, tout à fait. Et là, j'ai pris conscience de manière très brutale, en quelques minutes.
Oui.
Il y a eu la cassure. J'étais complètement, j'étais déchaînée, j'étais heureuse, j'étais dans tout le monde tourbillonné autour de moi et soudain, ma mère est partie, elle m'a laissée, bon forcément, elle n'allait pas rester là pour la nuit. Et pourtant j'avais ma sœur dans le même lycée, mais un très grand lycée.
Mm-hmm.
Et là, la cassure, j'ai dit, bon là, je suis seule, je suis prisonnière.
Oui.
Et j'ai pleuré pendant, enfin je ne le dis pas vraiment dans le livre, mais j'ai pleuré très longtemps.
D'accord. Et donc, pourquoi vous avez eu cette sensation de prison ?
Eh bien parce que chez moi, j'étais absolument libre. On allait chez les voisins, je courais dans les champs, il n'y avait pas de limite.
Mm-hmm.
Les limites, il y en avait, on devait manger à telle heure, mais bon... ce n'était pas contraignant, alors que là, déjà, on nous a parlé sévèrement dès le début, nous a appelé par nos numéros.
Oui.
Et ça, je n'ai pas compris.
Oui.
Il fallait bien le faire, on ne pouvait pas, on était très très nombreuses, bon, mais je ne l'ai pas compris, surtout je ne l'ai pas admis.
Oui. Avant d'ouvrir ce livre, on va parler de cette couverture qui est magnifique, c'est vous ?
Et non, c'est pas moi. L'éditeur m'avait proposé trois couvertures.
Oui.
Et celle-ci, j'ai tout de suite senti que ça aurait pu être moi.
D'accord.
Alors que les autres, elles étaient bien, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Celle-ci, cette petite fille, je ne sais pas qui elle est, mais j'essaierai de chercher. Enfin, je ne sais pas du tout qui elle est, mais je la ressens profondément.
Oui. En tout cas, moi, j'ai hésité. J'ai dit, est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est pas elle ? Voilà. J'ai essayé d'y retrouver vos traits, mais...
Non, ce n'est pas moi, mais c'est vrai que derrière, il y a, je pense que c'est un petit bâtiment où on rangeait le bois. Il y en a un juste à côté de ma maison. Ça aurait pu donc être vraiment moi, juste à côté de la maison de mes parents.
Donc on va faire une toute petite pause musicale et on se retrouve de suite pour ouvrir le livre.
D'accord.
On retrouve Nicole Chapp qui nous a proposé un livre pour passer d'agréables moments justement en lecture. Une enfance en Limousine dans les années 1960. C'est édité par Geste Édition. C'est dans la catégorie témoignages. C'est paru en 2014. Nicole, comment Marianne gère la différence de personnalité, cette découverte du monde quand elle rentre en sixième?
Eh bien, en fait, au départ, elle la gère très mal parce que c'est vraiment, disons qu'elle a un sentiment d'injustice. Les personnes ne sont pas, enfin, du moins les adultes ne sont pas comme elle voudrait qu'elles soient, comme elle les voyait avant. Il y a des punitions collectives, mm-hmm. alors que bon, quand on n'a rien fait, on estime qu'on n'a pas à être puni. Mm-hmm. Et donc, c'est très difficile à gérer dans un premier temps. Mm-hmm. Mais ensuite, il faut s'adapter. Je le dis d'ailleurs, il y a un chapitre du livre, il faut s'adapter, il faut oui. aller de l'avant. Il n'est pas question de revenir en arrière, parce que revenir en arrière, c'est repartir à l'école primaire et c'est impossible.
Oui.
Donc voilà, il faut avancer. Ça, c'est un peu mon caractère. Hein, quand oui. j'ai des soucis, quand j'avance. Et voilà, de toute façon, quand il n'y a pas d'autre solution, il faut se battre.
Tout à fait. Est-ce que ça vous a aidé pour votre vie d'adulte?
Je crois, oui, énormément.
Mm-hmm.
Oui.
Comment est-ce qu'on vit la découverte d'une telle communauté quand on a 11 ans? Ou 10 ans même, vous aviez 10 ans.
Oui,
vous.
J'avais 10 ans. J'avais oui. tout juste 10 ans. Ben, c'est très difficile, hein. C'est très difficile parce qu'il y a des personnes... Au début, je pensais que toutes seraient toutes les filles, puisque nous étions seulement des filles. Toutes les filles seraient mes amies, du moins celles du pensionnat, du dortoir.
Oui.
Et en fait, non, souvent c'est très individualiste. Et on est amis éventuellement avec les personnes qui dorment à proximité. Et là, ce n'était même pas tout à fait le cas parce que la personne qui était, on appelait ça des cabines, elle était beaucoup plus, enfin, elle avait 12 ans et elle n'était pas du tout du même monde que moi. Donc, bon, elle était gentille mais froide. Donc, mm-hmm. voilà, je n'avais pas beaucoup... d'amis, disons pas autant que j'en aurais voulu.
Oui.
Elles sont venues plus tard.
Oui.
Sont venues plus tard.
D'après vous, pourquoi les surveillants avaient cette rigueur de désagréable?
Je pense que c'était dans l'air du temps. C'était la sévérité et il fallait obéir, même si ce n'était pas toujours très juste. Hein.
Mm-hmm.
Il fallait obéir. Il n'était pas question de parler, même si on demandait un conseil à un voisin en études pour faire des devoirs. Donc c'était, on obéissait. Le surveillant ou la surveillante disait ça, on obéissait.
Oui. Entre emploi du temps, nouveau mode de vie, adaptation difficile. Comment s'adapter dans l'hostilité et la rigueur? Vous en parlez dans la page 152 de ça.
C'est vrai que on est obligé de s'adapter à la rigueur parce que bon sinon c'est la sanction.
Oui. Oui.
Et bon après disons qu'on s'adapte dans un premier temps et puis après on essaie de faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire en dehors.
D'accord. Et l'hostilité?
L'hostilité, je crois qu'on ne l'accepte jamais.
D'accord.
On ne l'accepte jamais, mais il faut faire avec, encore mm-hmm. une fois.
Page 154, j'ai relevé « Être comme les autres ». Courage, petite sœur. Ce sont des mots encourageants pour Marianne. Comment les avez-vous analysés en écrivant le livre?
Courage, petite sœur.
Mm-hmm.
C'est quand ma sœur, qui est au pensionnat avec moi, me dit d'être courageuse, de ne pas pleurer, d'accepter en fait la vie au pensionnat.
Oui.
Et courage, bon, j'ai compris que ma sœur me disait, bon, il faut continuer, il faut faire avec, tu es là, tu y restes, et puis c'est tout.
Oui.
Bon, elle me le disait gentiment. Elle me
oui,
disait,
oui,
bon,
tout à fait.
Voilà, courage, allez sèche tes larmes et avance, tu vas t'habituer. Je
oui.
pense que bon, c'est ce qu'elle voulait dire et c'est comme ça que je l'ai compris.
Oui, et vous avez mis, je serai comme les autres, je veux être comme les autres.
Oui. Et oui, c'est sûr qu'à à ce moment-là de la vie, on a envie de ressembler aux autres, de ne pas se démarquer.
Oui.
J'allais avec d'autres personnes qui étaient qui venaient de milieux très différents. Je ne voulais pas me distinguer, je voulais faire comme les autres, être comme tout le monde.
Oui.
Et ne pas me retrancher, rester dans mon coin.
Oui.
Voilà.
Ce qui aurait appelé sûrement l'hostilité et la rigueur encore plus.
Encore plus. Et l'énervement d'ailleurs de nos supérieurs, parce que quand je pleurais le premier jour, on me disait, bon alors vous n'êtes pas malade, pourquoi pleurez-vous?
Oui.
Voilà, donc je savais que je n'avais rien à attendre, donc il fallait cacher sa peine et continuer.
Oui, et les sorties, Comment les avez-vous vécues? Est-ce que c'était un bol d'air ou est-ce que c'était tout simplement, ben, on sort parce qu'il faut sortir et pour éviter justement l'hostilité?
Alors là, il y a les deux périodes, parce que jusqu'à une certaine période, c'est-à-dire jusqu'à la troisième, si je me souviens bien, on avait des sorties obligatoires, mais encadrées par les surveillantes.
Oui.
C'est-à-dire qu'on partait rangé de 3 par 3 dans la ville et on allait dans des endroits de campagne où là, c'était très... on s'ennuyait. Franchement, on s'ennuyait, surtout l'hiver, il faisait froid et bon... Et ensuite, à partir de la seconde, nous avons eu des sorties libres.
Mmh.
Alors là, ça changeait tout. Parce que les sorties libres, on allait là où on voulait dans la ville, dans la ville de Tulle. Et on allait dans les pâtisseries, on allait un peu partout, dans les magasins de vêtements. Et là, c'était vraiment le plaisir.
D'accord. Le monde de l'internat, vous y avez mis de l'humour encore. On le retrouve tout au long du livre, en fait, ce brin d'humour sympathique. Est-ce que c'était la rebelle et la frondeuse qui sommeillaient au fond de Marianne, justement?
Oui, sûrement, parce qu'il m'arrivait de faire des bêtises avec les autres.
Hein. Oui.
Et donc, je ressortais un petit peu mon tempérament. Je n'acceptais pas vraiment les conditions de vie... qui m'était offerte, mais comme je n'avais pas d'autres moyens, je les ressortais par des petites espiègleries de temps en temps.
D'accord. Se taire, mais forte à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on est, on peut se taire. Oui, on peut ne pas répondre. C'est-à-dire quand j'avais des personnes qui, enfin des surveillantes ou même des professeurs qui me faisaient des réflexions blessantes, ne pas répondre. Mais à l'intérieur de soi, se dire, bon, j'ai raison, je sais que j'ai raison et je ne changerai pas.
Mm-hmm.
Voilà, c'est ça, forte à l'intérieur, garder pour soi sa conscience, enfin ce qu'on est sûr de faire bien, tout en essayant, bon, on peut se tromper, dans ce cas-là, il faut évoluer.
Oui.
Mais quand on sait que c'est une injustice, et donc se dire, bon, je n'ai pas le droit de répondre, c'est pas la peine, la sanction sera pire, donc je ne dis rien, mais... Je sais que, enfin, je suis forte et je sais que je n'ai pas tort.
Mmh. Est-ce que la confiance et le respect s'apprennent en collectivité?
Oui, je pense. Ils s'apprennent aussi. Oui, ils s'apprennent dans la famille aussi, mais en collectivité, oui, beaucoup.
Vous, à un moment, vous n'avez pas vendu la mèche, vous aussi, et tout le monde a été pareil de concert, sauf une ou quelques-unes de vos camarades qui avaient écrit sur un billet, justement, qui avait donné.
Oui, oui, disons qu'il y avait eu, je ne sais plus, c'était un vol, parce que bon, voilà. Et effectivement, la surveillante, encore une fois, mais on vivait beaucoup avec les surveillantes, hein, à l'internat, a demandé à l'élève de se dénoncer. Je ne sais plus si c'est un vol ou quelqu'un qui avait ri. Enfin, il y avait eu plusieurs.
Oui, il y avait quelque chose comme ça, oui.
Voilà. Donc, bon, la personne ne s'est pas dénoncée, évidemment, dans un premier temps. Mais d'autres sont allés la dénoncer.
Oui.
Et bon, moi, il n'était pas question que je dise... de toute façon, même si j'avais su qui c'était, je ne l'aurais pas dit parce qu'on ne dénonce pas.
Oui.
Bon, ça ne se fait pas.
Oui.
En collectivité, il faut apprendre très vite ça, sinon on est marginalisé, de toute façon.
Mm-hmm.
Bon, mais personnellement, ça ne m'était pas venu à l'idée d'aller dénoncer quelqu'un. Tant pis, on était punis, on était tous punis.
Oui.
Bon, c'était pas très agréable, mais bon, il fallait faire avec.
Oui. Donc, Marianne a grandi, et le premier grand voyage, qu'est-ce qu'il représente pour Marianne?
Ça, c'était vraiment quelque chose de formidable. Mon premier grand voyage, c'était la Normandie, donc avec des cousins qui venaient tous les ans en vacances, mais moi, je n'étais jamais partie en dehors de mon village, ou après, bon, en dehors des petites villes aux alentours.
Oui.
Voilà, alors partir en Normandie, c'était l'autre bout de la France, et pour moi, c'était le bout du monde.
Et oui.
Donc, il y avait une journée de trajet en voiture, il y avait la mer, donc c'était formidable, c'était quelque chose, c'était vraiment une aventure.
La grande aventure.
La grande aventure, oui.
La découverte du monde de Paris, confirme-t-il à Marianne le besoin des études?
Ah oui, le deuxième voyage, oui, à ce moment-là, j'étais quand même plus grande, hein, donc
oui.
Là, oui. Oui, je comprenais qu'il fallait, pour s'en sortir dans la vie, enfin, il fallait quand même, il fallait faire des études, avoir, du moins si on voulait évoluer, ça dépend du métier qu'on veut faire, bien entendu, mais
oui.
On a besoin des études, à mon avis.
Mm-hmm.
Voilà, j'en ai pris conscience à ce moment-là.
Oui, ça se sent dans le livre, en tout cas.
Oui.
Le certif, pourquoi c'était si important pour Marianne de passer ce certif alors qu'elle n'avait pas besoin de le passer?
Eh bien, je ne sais pas, mais vraiment j'ai ressenti ça comme quelque chose de très fort à ce moment-là. Je pense que j'avais entendu parler du certificat d'études pendant toute mon enfance.
Mm-hmm.
Les gens me disaient « Ah, il a le certificat ». Bon, c'était quelque chose de formidable. Et moi, j'ai dû passer ce certificat, j'étais à l'âge où les autres étaient encore à l'école primaire.
Mm-hmm.
Seulement, j'étais dans une classe où on n'apprenait pas du tout les mêmes choses, donc il y avait le risque de me faire coller, même au certificat.
Mm-hmm.
Et néanmoins, j'avais besoin d'avoir cet examen, parce que pour moi, c'était, comment dire, une preuve que j'étais capable d'avoir, de réussir quelque chose.
Oui.
Et alors bon, j'étais un peu ridicule parce que on est trois dans le lycée à le présenter. Et voilà, on était même moins bons que ceux qui étaient dans les écoles parce qu'on n'avait pas traité ce programme-là.
Oui, tout à fait.
Mais j'étais très fière avec mon certificat et j'en suis encore très fière.
La correspondance avec les autres jeunes, en quoi a-t-elle été constructive pour la jeune fille que vous étiez ?
Avec mes correspondants étrangers ?
Oui.
Oui, alors là aussi, bon, c'était à l'époque, on correspondait beaucoup, du moins en langue, on choisissait la langue, souvent en langue anglaise, on nous demandait si on voulait avoir des correspondants.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai été tout de suite séduite par cette idée, parce que je correspondais avec des gens du bout du monde. J'avais choisi Hong Kong, j'avais choisi, bon, plein de pays, l'Islande,
oui.
Enfin bon, voilà. Et c'était une ouverture sur le monde. Et sur des cultures différentes, et aussi de l'amitié, parce qu'avec certains, pas avec beaucoup, mais avec certains, nous avons échangé vraiment des lettres très riches, très longues,
mm-hmm.
et je correspond encore, bon maintenant c'est plus moderne, je correspond avec Internet, avec un de mes correspondants que j'ai connu à l'âge de 10 ans et que je n'ai jamais vu.
D'accord.
Voilà.
c'est vraiment très sympathique.
Oui, mais c'est vraiment, là, à ce niveau-là, c'est de l'amitié.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Oui.
Est-ce que vous êtes toujours aussi insensible ou est-ce que c'est une carapace de petite fille peut-être que vous aviez bâtie autour de vous pour supporter l'enfermement de l'internat justement ?
Insensible quand on me fait, quand on me blesse ?
Oui, quand on vous fait quelque chose, vous restez insensible.
Alors, en apparence. Hein.
Oui, oui, tout à
oui,
fait.
Oui, en apparence, oui. J'ai cette faculté qui m'a servi dans la vie souvent. Et si on me fait vraiment une réflexion qui me blesse au plus profond de moi, je peux ne rien laisser paraître. Enfin, je ne laisse rien paraître.
Oui.
Mais en revanche, je suis malade à l'intérieur.
Mm-hmm.
Mais bon, je crois que j'ai appris ça en pension, effectivement, oui.
Oui.
Je me mets très rarement en colère, je pleure très rarement devant les autres.
Oui.
Et pourtant.
Oui. Donc, vous voyez, vous savez bien transcrire tout ce que vous ressentez. Il y a la maladie du père, les croyances, la mort, les naissances, qui montrent à Marianne la vraie vie. C'est vraiment ça que vous avez voulu écrire ?
Oui, 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 oui. Oui, c'est la vraie vie avec les bonheurs, les naissances qui sont des bonheurs, bien sûr. Mais aussi la mort des grands-parents, la mort de Louise, dont je parle, qui était ma grand-tante, mais qui vivait avec nous.
Oui.
La maladie de mon père, très subite, puisque mon père a été paralysé en quelques heures, disons.
Oui.
Voilà, alors qu'il était pour moi en bonne santé la veille, ce sont des choses qui ont marqué ma vie, c'est sûr.
Mm-hmm. Et les croyances là-dessus ?
Les croyances d'un au-delà, pour moi, sont importantes, parce qu'elles nous aident à accepter, à comprendre peut-être, du moins à accepter, elles nous font réfléchir.
Mmh. D'accord. Comment se sent Marianne avec son numéro 475 jalousement emprisonné, comme rejetée à la fin de ses études ? Est-ce que ça a été plus facile dans ces années-là d'être jeune ?
D'être jeune dans ces années-là, je pense, oui.
Oui.
Je pense parce qu'on avait... à part l'internat qui était pesant et l'autorité aussi, on avait une certaine, il y avait une certaine convivialité,
mm-hmm.
une entraide. Je ne sais pas si elle existe autant aujourd'hui.
Oui.
Oui.
Et le fait d'avoir eu un numéro, le numéro 475, et d'avoir été donc enfermée, est-ce que ça vous a pesé longtemps ?
Alors ça m'a pesé les premières années.
Mmh.
Après, on n'y fait plus attention.
Oui.
Et voilà, maintenant, quand il m'arrive de croiser mon numéro qui est encore sur des mouchoirs que j'ai rangés, que j'ai gardés en souvenir, je suis presque attendrie. C'est presque ce que j'ai ressenti quand en terminale, on avait fini, donc le lycée était fermé pour nous. Il n'était plus question d'y retourner.
Oui.
On a eu un rejet, enfin j'ai ressenti comme un rejet, c'est-à-dire bon c'est fini, maintenant vous êtes adulte, vous ne rentrez plus. Et bon, ce numéro 475, il n'était presque plus le mien.
Oui.
Mais je le retrouve maintenant dans mes souvenirs.
Oui, disons. Pourtant vous avez pleuré quand on vous a rejeté justement, vous n'étiez plus personne.
Et non, oui voilà c'est ça, on n'était plus personne, on nous a mis, on nous a mis dehors à la fin de l'année scolaire, le lycée... on n'avait plus à y entrer puisqu'on était, on ne faisait plus partie de l'établissement. Mmh. Et c'est ce panneau que j'avais vu afficher la porte, entrée interdite à toute personne étrangère à l'établissement. Je me suis dit, maintenant, moi j'ai le bac, donc je suis une étrangère, je m'en vais. Et c'est vrai que là, bon, mon numéro 475, il était terminé.
Oui.
Dans son aspect positif et dans son aspect négatif.
Oui. Est-ce que vous avez parlé, on va quand même dire votre profession, vous êtes enseignante, est-ce que vous parlez de vos livres, de vos ouvrages, et en particulier de celui-ci justement à vos élèves?
Non, jamais, non.
Et il n'y a personne qui les a lus? On ne vous
Alors,
en a pas parlé?
Quelquefois, un élève me dit, madame, vous écrivez, oui. Alors, mais non, je n'en parle pas, non, parce que ça ne s'y prête pas, et puis non, je n'en parle pas.
D'accord. Si on vous demandait de faire une conférence justement devant des jeunes pour leur faire bien voir ce que vous, vous avez vécu et ce que eux vivent actuellement, pour justement leur faire comprendre la différence de la liberté qu'ils ont, est-ce que vous le feriez?
Peut-être, oui, si c'était avec d'autres personnes qui, pour un échange, mais pas le leur dire peut-être de façon formelle. Mm-hmm. Je crois que s'ils veulent, il y a assez de témoignages pour savoir quelle était notre vie à cette époque-là. Non, j'aime bien écrire, mais je n'aime pas forcément aller expliquer, parler de moi devant d'autres personnes. En revanche, je l'ai fait pour les enfants, mais c'est pas du tout la même chose.
Oui.
C'est pour parler de mes livres dans des classes primaires, voilà. Pour
oui, tout à fait.
Ça n'a rien à voir.
Oui.
Parler de moi, ça me gêne un peu. Enfin, ça dépend. Quand c'est vraiment... je ne voudrais pas tout centrer sur moi, disons, voilà.
D'accord, je comprends bien. Vous êtes la petite main qui travaille dans ces livres.
Je préfère écrire, oui, plutôt que parler.
D'accord.
Dans ce domaine-là, du moins.
Mm-hmm. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui, quand vous repensez à cette vie, à votre enfance surtout, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de vous faire une tisane, de vous faire un petit plat et de revivre quelque chose à l'intérieur de vous?
Oui, bien sûr, mais surtout par les petits plats. Je ne suis pas très tisane, donc...
Oui, ça, vous l'avez écrit.
Oui, les tisanes de tilleul.
Oui.
Oui, mais là, c'est différent. Le tilleul, c'est tout le parfum du tilleul.
Oui.
Oui, bien sûr, le tilleul. Mais bon, c'est surtout, je le retrouve surtout à travers, enfin, les souvenirs, je les retrouve surtout à travers la cuisine.
D'accord. Et donc, vous en faites finalement un petit peu souvent de ces plats, de ces bons plats que vous nous décrivez dans les livres?
Ah oui, j'en fais, oui, je les fais découvrir à des amis, par exemple. Mm-hmm. Voilà, oui, j'en fais souvent.
Oui.
Souvent pour moi, parce que je les aime beaucoup.
Et oui, bien sûr.
Oui, je les aime vraiment.
Oui. D'ailleurs, il faut dire à nos auditeurs que dans ce livre, vous y mettez justement vos recettes de famille.
Oui, voilà, de famille, mais aussi les recettes qu'on trouvait dans tout le village, hein, pas seulement ma famille.
Oui.
Enfin, qu'on trouvait, qu'on ne trouve qu'en Limousin. Enfin, la plupart, on ne les trouve qu'en Limousin, et particulièrement en Corrèze.
Voilà, et donc, de par votre livre, ça va pouvoir s'étendre à la France entière et peut-être même au-delà.
Et pourquoi pas.
Voilà, Nicole, nous avons épluché votre livre de page en page. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné cette lecture. Je pense que chacun s'y retrouvera, puisque c'est un petit peu de chacun de nous, quelque part, que l'on voit. Si on n'a pas été pensionnaire, évidemment, on ne va pas vivre la pension avec le même regard. Mais l'enfance dans un village, dans la famille, ça va être quelque chose que chacun peut retrouver. C'est un très bel ouvrage, très facile à lire. Vous l'avez réussi. Est-ce que ce sont aussi des fois quelques larmes qu'essuie Marianne, surtout pour ce dernier jour, que vous avez voulu aussi mettre dans ce livre? Parce que des fois, on sent bien qu'il y a ce côté émotion, ce côté de peine quelque part qui est là et qui eh bien, se retrouve avec la larme à l'œil.
Et oui, je pense qu'on regrette toujours certaines époques de sa vie, de toute façon, quand elles sont passées. Et c'est vrai que je me retourne souvent sur cette période avec un brin de nostalgie, même si au début c'était difficile. Enfin, le début du pensionnat était difficile. Oui. Mais de toute façon, l'enfance et l'adolescence sont des périodes, la plupart du temps, merveilleuses, je dirais la plupart du temps. Il y a des problèmes aussi, bien sûr, mais on arrive à oublier, enfin, je pense qu'on arrive à oublier le négatif pour ne conserver que le positif.
D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, parce qu'au début, vous dites « je note tout parce que quand on vieillit, on oublie tout ».
Et oui, et je crois que c'est vrai. Et beaucoup de personnes me disent comment as-tu fait pour te souvenir de petits détails ? Mais en fait, ils sont présents et ce qui me blesse beaucoup, cela, je fais en sorte de les oublier. Ça, c'est aussi un trait de mon caractère. Les choses qui m'ennuient, je les cache. Enfin, oui. J'évite de trop centraliser, de trop me concentrer dessus parce que ça ne sert à rien de toute façon.
C'est encore les restes du pensionnat, ça ?
Oh oui, en partie, oui. Et des choses qui pas très agréables qui ont pu m'arriver dans l'existence.
D'accord. Est-ce qu'il y a un autre ouvrage en route ?
Oui, je suis en train d'écrire un roman, mais il n'est pas terminé là.
D'accord. Donc voilà, on aura l'occasion de vous re-rencontrer avec Reliure sur Radio Galaxie. Nicole, écoutez, toutes bonnes choses ont une fin, donc. On est arrivé, voilà, à la fin de notre émission, de cette présentation de ce livre qui s'appelle « Une enfance en Limousin dans les années 1960 ». C'est édité par Geste Édition. Où est-ce qu'on peut le trouver, justement ?
Oh, ben, je pense qu'on peut le trouver dans toutes les librairies ou dans les grandes, enfin, dans la grande distribution. Je pense qu'il doit être distribué un petit peu partout.
Oui.
En le demandant, s'il n'est pas à la librairie, vous pouvez le commander de... Je pense que c'est assez facile de se le procurer.
Merci beaucoup, Nicole Chappe. Pour ma part, je vais vous demander de continuer à nous préparer de bonnes lectures, comme vous savez les faire. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à vous découvrir à travers cette enfance en Limousin dans les années 1960, parue aux Gestes Éditions. Et on ne peut que vous remercier de nous avoir donné cette très bonne lecture. Pour ma part, à bientôt. Je vous laisse le mot de la fin.
À bientôt, merci beaucoup. Et j'espère que ce livre plaira à vos lecteurs. Pourquoi j'ai choisi la chanson de John Baez pour conclure ? Eh bien, parce que dans cette chanson, je pense qu'elle nous dit tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut surmonter pour devenir un adulte, pour devenir un homme. Elle nous fait réfléchir. Et en fait, on espère trouver la réponse dans le vent. C'est bien sûr une image. Et puis, bien sûr, c'est aussi pour la voix merveilleuse de John Baez que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente.
Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
She sleeps in the sand. How many times must the cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Mountain exist before it's washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blue.
Sonando en el viento, la represa está sonando en el viento.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Gracias a todos, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Gracias.